Fidèles auditeurs de Radio Salamane, nous voulons vous donner l'opportunité de suivre une émission spéciale ce matin, une émission missionnaire. Nous voulons une fois de plus accueillir sur ce plateau un ami. Il est devenu un ami de Radio Salamane. Vous avez certainement écouté son témoignage. Il est passé à une édition des Témoins racontent. Mais cette fois-ci, il va nous édifier par rapport à son ministère. Quand, si vous avez été attentif à son témoignage la dernière fois, il nous a donné de comprendre qu'il a été appelé à travailler au milieu des musulmans pour essayer de leur faire comprendre quel est l'amour de Dieu pour ses amis qui sont musulmans. Mais avant que d'entrer dans cette phase pour comprendre exactement quel est le travail qu'il est en train de faire, mais nous voulons redire encore au pasteur de se représenter, n'est-ce pas? Pasteur, nos auditeurs voudraient bien savoir qui vous êtes une fois de plus.
Voilà, donc je suis le pasteur Christian Becquet, je viens de la France et dans la région de Lille, Dunkerque. Donc j'ai quitté la France pour venir en mission au Cameroun en 2007. Et je me suis attaché donc à une assemblée avec laquelle je pouvais travailler dans le ministère que Dieu, dans lequel le Seigneur m'avait préparé pendant des années. Ayant reçu mon appel en 1989, je me suis formé donc une vingtaine d'années avant de venir. Voilà.
Mais apparemment, il se trouve que vous êtes conférencier. Non seulement vous êtes pasteur, mais vous êtes conférencier, vous êtes enseignant. Et comment ça se passe en tant que conférencier, en tant qu'enseignant? Comment ça se déroule?
Bon, alors en tant qu'enseignement, j'ai des sujets qui me sont chers, comme l'histoire de l'Église. Raconter l'histoire de l'Église dès son commencement jusqu'à la Réforme et après la Réforme. Mmh. Donc c'est une spécialité pour moi. Et aussi l'histoire des religions comparées, puisque je suis un spécialiste dans le phénomène sectaire. Et entre autres, je suis aussi spécialiste dans l'islam. Je ne suis pas en islamologie, je n'aime pas trop ce mot parce que je ne suis pas docteur du Coran. Mmh. Mais disons que spécialiste dans l'islam. Comment témoigner, etc. Mais il a fallu une longue préparation. Et ceux qui ont entendu mon témoignage sauront que ce n'est pas un sujet de glaire pour moi. Parce que c'est au travers des souffrances vraiment terribles que j'ai connues que j'ai pu me former.
Alors quand on est conférencier, on n'a pas beaucoup de difficultés de traverser rapidement l'autre frontière pour devenir enseignant.
Non, non. Parce que déjà, bon, un enseignant, c'est quelqu'un qui sait parler. Bon, aujourd'hui, bon, peut-être que vous allez voir un peu des problèmes dans mon langage parce que je sors d'une conférence, justement. Donc, je suis un peu fatigué. Mais disons que il n'y a pas eu de problème, non. Parce qu'on a l'habitude. J'ai été formé en tant que conférencier. Et lorsqu'on est conférencier, il est plus facile par la suite, ensuite, d'enseigner.
Ben, en plus du fait que vous êtes enseignant, vous êtes conférencier, apparemment, vous êtes aussi écrivain, vous écrivez des livres.
Oui, oui, j'ai écrit un livre qu'on appelle « Notre défi face à l'islam, notre témoignage », un livre de 300 pages qui est en rupture de stock. Et ici au Cameroun, sachant la pauvreté, il va falloir que je vois comment je peux faire un livre avec un coût plus abordable, oui, plus acceptable. Donc je suis à l'œuvre sur un nouveau livre. D'abord, je l'ai en main. Hein. Ce livre-là s'appelle toujours le même titre, mais il fera, disons, on va dire une centaine de pages, mm-hmm, avec un prix plus abordable.
Ben alors, dans la quintessence, est-ce que vous pouvez aiguiser la petite, ceux qui auraient besoin de lire ce livre-là, Notre défi face à l'islam,
oui,
témoignage. Quel est le sujet abordé dans ce livre?
Donc, dans ce livre, il y a plusieurs sujets. Nous allons aller au paragraphe. À la fin donc, du livre, il y a donc les paragraphes. Et nous allons lire, par exemple, l'avant-propos. Que faut-il savoir en priorité avant d'aborder les musulmans? Hein, donc j'ai dit qu'il faut d'abord s'appuyer sur l'évangélisation. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah? La Trinité, comment expliquer la Trinité aux musulmans? Mais dans le Coran aussi, nous trouvons une sorte de trinité coranique. Ah, ça peut étonner peut-être les auditeurs musulmans, mais je répète, dans le Coran, il y a une sorte de trinité coranique, on va en venir tout à l'heure. Il y a le Coran, qu'est-ce que le Coran? Il y a aussi la divinité, un mystère que nous prêchons. Il y a qui est Mohammed? Que dit le Coran de Mohammed et que dit le Coran de Jésus? Il y a aussi les contradictions que nombreux musulmans relèvent dans la parole de Dieu et avec lesquelles je réponds. Le péché selon le Coran, et le pardon des péchés, le salut en islam. Et la véritable Torah et évangile a-t-il disparu? Est-ce que la Bible est falsifiée? Et diverses accusations, comment répondre aux diverses accusations des musulmans sur le christianisme?
Voilà, je crois qu'on va revenir sur ces aspects-là d'une manière ou d'une autre tout à l'heure. Oui. Mais déjà, on va quand même, nous allons nous attarder un peu par rapport à ton ministère au Cameroun. Un missionnaire qui part de la France pour venir s'installer au Cameroun. Pas de complications dans l'adaptation missionnaire avec les autres collaborateurs de la mission?
En tout cas, je peux bénir le Seigneur. Peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas? Bon, mais en tout cas, lorsque je suis arrivé au Cameroun, je n'étais pas connu. Je suis parti avec ma propre mission. Je suis parti par la foi aussi, quoi. Donc, bien qu'une famille m'ait accueilli avec un serviteur de Dieu. Mais j'ai failli avoir des problèmes. Vous savez que le blanc, quand il arrive, le premier problème qu'il peut rencontrer, c'est les femmes. Donc, on a dû veiller sur moi et aussi faire très attention. Enfin, que je ne tombe pas dans le panneau de l'adultère. Parce qu'il y a trois dangers qui guettent le serviteur, c'est l'adultère, l'argent et l'orgueil. Et on a essayé justement de me mettre la main au niveau de ces trois choses. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai pu être sauvegardé de toutes ces choses-là. Donc, le moyen d'adaptation, ça s'est fait rapidement. Puisque je suis un ancien militaire, j'ai été très bien accueilli par les églises. Les gens ont pris soin de moi, surtout au niveau de l'EMEC. J'ai vraiment été entouré, on m'a placé là où il le fallait. On ne m'a pas mis dans une grande église avec des grandes charges. On m'a dit d'abord, tu vas dans le village là-bas et tu vas travailler pour m'adapter. Mmh. Donc je me suis très bien adapté, étant donné que mon épouse est aussi camerounaise, quoi.
Alors, vous savez, facilite beaucoup de choses.
Oui, ça facilite pardon, beaucoup de choses, à tel point que lorsque même que je prêchais, c'était elle qui me traduisait, quoi, parce qu'on travaille chez les Étonnes. Mmh, oui, donc l'adaptation s'est faite seule, seulement quelques petites complications qui n'ont pas eu d'incidence.
Voilà, maintenant, si vous permettez, nous allons entrer dans le vif du sujet, parlant de votre mission dans l'approche avec les musulmans. Et ce qui me saute tout de suite à l'esprit, c'est, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir quel est le message prioritaire que vous avez à annoncer aux musulmans.
Voilà.
Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le message central?
Donc, pour cette question, il faut savoir que nous devons tous annoncer l'évangile aux musulmans. Mais pour cela, je dirais qu'il y a un message adapté. Il y a un message adapté aux croyants musulmans. Par exemple, on ne peut pas aller voir les musulmans pour leur dire « Jésus, le Fils de Dieu », puisque le Coran nous dit explicitement que Dieu n'engendre pas et qu'il n'a pas engendré. Donc forcément, si on leur dit que Jésus est le Fils de Dieu, ils nous diront que Dieu n'a pas d'épouse. Et c'est souvent sur ça que nous tombons, sur des gens qui s'imaginent que nous prêchons que à Dieu a couché avec Marie. Et donc, ils nous prennent pour des mécréants. Alors, le message premier que nous devons faire passer, ce n'est pas spécialement annoncer que Jésus est le Fils de Dieu, mais tout d'abord leur montrer le fruit de notre conversion. Convertir un musulman, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et nous ne devons pas aller non plus vers les attroupements de musulmans. Nous devons essayer de gagner leur amitié, leur confiance. Et ça se fait patiemment, ça se fait avec l'amour. Lorsque donc un musulman a gagné notre confiance, là maintenant nous pouvons démontrer nos fruits. Il vient à la maison.
Ça nécessite donc une méthode d'approche.
Oui, voilà, une méthode d'approche nous les serviteurs de Dieu, on explique, par exemple aujourd'hui dans la conférence, j'ai expliqué comment aborder les musulmans, quoi. Parce que le message prioritaire, c'est nous. C'est nous-mêmes le message.
Et ça, c'est important.
Oui.
Parce que si,
oui, le témoignage personnel, l'amitié que nous pouvons faire avec ce musulman, et aussi l'inviter à la maison. Par exemple, quand il va venir à la maison, il va voir qu'il n'y a pas de vin, il n'y a pas la bière, on va lui offrir de l'eau. Hein? Et, ou alors il va nous inviter chez lui, on va le respecter, on va manger à sa table. Il faut gagner son amitié et lui démontrer notre amour, notre attachement. Peut-être que le musulman a besoin de soins, il a besoin de quelque chose, et vraiment venir à son aide, quoi. Et montrer notre amour et notre amitié pour cet homme. C'est le premier message.
Eh bien voilà, est-ce que vous pensez, ces amis, c'est les amis, n'est-ce pas? C'est pas difficile de les aborder, même quand on a une méthodologie bien préparée?
Non, il n'est pas difficile d'approcher les musulmans, excepté ceux que l'on connaît, qu'on entend à la télévision, n'est-ce pas? Mais le faible taux de musulmans intégristes et ne doit pas nous empêcher d'aller les rencontrer même. Et donc la plupart des musulmans, ce sont des gens qui respectent Dieu. Ils craignent Dieu et ils ne s'opposent pas à ce que nous leur parlons de Dieu, ni de ce que l'on témoigne. Parce que dans le Coran, il est écrit qu'il y a les gens du livre. Les gens qui observent et qui marchent selon les commandements de Dieu. Les musulmans savent qu'il y a deux catégories de croyants, comme il y a deux catégories de croyants en islam. Ils le savent. Donc, il n'est pas difficile de les aborder. Moi-même, j'ai facilement abordé. D'abord, je mets au défi n'importe qui d'aller voir un musulman, un chrétien. Si vous êtes chrétien, vous allez auprès d'un musulman, vous lui dites « Bonjour, j'ai vraiment envie de te donner mon témoignage. » Il va accepter. Mais attention de ne pas aller dans là où il y a les groupes et de ne pas aller au-delà de votre témoignage.
Mais il y a quand même un aspect, puisque les amis musulmans disent que le Coran enseigne que Dieu n'a pas été engendré et que Dieu n'a engendré personne. Mais comment est-ce que les chrétiens peuvent donner aux musulmans de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu?
Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est une part de la compréhension. Et aussi une mauvaise connaissance des Écritures. Les musulmans ont une très mauvaise connaissance des Écritures, puisque dans le Coran, nous savons qu'il est écrit dans la sourate 345, « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. » Et dans la sourate 930, il est écrit « Les juifs et les chrétiens dirent « Nous avons Christ, nous sommes les fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas d'épouse ? Donc nous voyons que le problème, c'est que les musulmans s'imaginent que les chrétiens prêchent dans leur église que Marie a une relation sexuelle avec Dieu. Alors que le Coran lui-même dit que Dieu a appelé Marie, il a envoyé l'ange Gabriel et il a dit à Gabriel, voilà, tu vas dire ça à Marie. Donc Marie vient auprès de l'ange vient auprès de Gabriel, de Marie, il lui dit, voilà, le saint enfant qui va naître de toi, c'est le Saint-Esprit, quoi. Et elle dit à cet ange, mais comment sera-t-il possible que je devienne enceinte? Je ne connais aucun homme. Ça, c'est dans le Coran. Et l'ange lui dit, mais Dieu fait ce qu'il veut. Lorsqu'il dira voilà, et la chose va s'accomplir. Et c'est comme ça que Marie est enceinte, parce que Dieu, par sa puissance, a rendu Marie enceinte d'un enfant qui n'a pas de père. Alors les musulmans doivent savoir qu'en fait, la parole de Dieu dit exactement la même chose dans l'Épître, dans le Matthieu 1 et dans Luc 1 et 2. Nous voyons que Marie reçoit de l'ange Gabriel une promesse. Le saint enfant qui viendra de toi vient de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi, ils te couvriront de son ombre et tu auras un fils qui sera appelé fils du Très-Haut. Donc vous savez, chers auditeurs, que lorsque la parole de Dieu nous dit que Marie est enceinte, s'est retrouvée enceinte, c'est par la puissance de Dieu et non pas par un acte sexuel. Loin de nous d'enseigner de telles choses et de telles hérésies. Alors le Coran et la Bible s'accordent sur le même sujet. Lorsque le musulman va entendre de la part de la parole de Dieu que Marie a été mise enceinte par un acte surnaturel, à ce moment-là, on peut lui dire que l'engendrement est spirituel. On sait très bien que, par exemple, dans la croyance des musulmans, Abraham est le père de la foi. Donc, il est le père de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham n'est pas forcément mon père, mais qu'il est un ancêtre de la foi. Étant donné moi-même que je suis français, je n'ai pas de descendance avec Abraham. Et pourtant, le Coran, si j'étais musulman, me dirait, voilà, Abraham est ton père. Mais Abraham n'est pas mon père, il est mon père spirituel. Et Jésus est le fils de Dieu spirituel dans le sens où Dieu l'a mis au monde par la puissance de Dieu. Il a élevé ce Jésus, il a pris soin de ce Jésus, il a pris soin de ce fils de Dieu, comme nous l'appelons. Fils de Dieu parce qu'il est né de Dieu, son père. Donc, nous sommes tous de toute manière des fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et dans le Coran, si Abraham est votre père, sachez aussi que Dieu est aussi votre père parce qu'il est le créateur. Dans la parole de Dieu, la notion de père, c'est une notion de potier. Dans Ésaïe 45, je crois, il est écrit « Dieu est notre père parce qu'il est notre potier ». Donc la notion de père en Israël et la notion de père dans la parole de Dieu, c'est parce que c'est une notion où on voit Dieu comme créateur. Il est notre père parce qu'il est notre créateur, non pas parce qu'il nous a engendrés sexuellement. Voilà.
Mais la grande controverse quand on vous écoute, pasteur Christian, c'est que tout tourne autour de Jésus. Mais en réalité, pour le Coran, qui est Jésus? Comment est-ce que le Coran appréhende Jésus?
Alors, pour l'islam, pour le Coran, Jésus, et ça m'a même étonné, quand j'ai commencé à lire le Coran, j'étais très étonné de ce que, dans le Coran, Jésus était vu comme un prophète, un vertueux prophète. Le Coran dit que Jésus est un vertueux prophète. Et ensuite, le Coran nous dit que Jésus est le Messie. Alors que les Juifs eux-mêmes rejettent cette appellation de Messie pour le Fils de Dieu, les Arabes, les musulmans, reconnaissent que Jésus est le Messie. Chose que ne veulent pas reconnaître les Juifs. Mmh. Ensuite, Jésus est la parole d'Allah. En arabe, nous disons « Al-Kitab min Allah ». Jésus aussi la vérité de Dieu. « Al-Haq min Allah ». Jésus est la lumière de Dieu. « Al-Nur min Allah ». Ça veut dire qu'il est la lumière, il est la parole de Dieu. Il est un esprit aussi. La Bible, le Coran nous dit que Jésus est illustre ici-bas, sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc il est illustre, ici-bas, mais aussi un des rapprochés d'Allah dans le ciel. Jésus dans le Coran est aussi la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de la vérité. Il est né surnaturellement comme la Bible enseigne. Donc tous les enseignements sur Jésus, hormis son engendrement et son appellation de fils de Dieu, pour une incompréhension je pense, tous ces titres nous les retrouvons dans la Bible. C'est-à-dire que toi, chrétien, tu dois pouvoir annoncer Jésus à ton ami musulman sur beaucoup de thèmes comme « Jésus est la vérité ». Jésus a guéri les lépreux. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a fait entendre le sourd. Il a ouvert les yeux des aveugles. Et sur ces choses que nous pouvons nous appuyer pour annoncer l'évangile aux musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de textes coraniques qui ressemblent beaucoup aux textes de la Bible et avec lesquels nous pouvons nous entendre. Quant à l'engendrement spirituel, il faut que le musulman, si toi tu m'écoutes, il faut que tu comprennes que nous n'enseignons pas que Dieu est une femme. L'engendrement est simplement dans le sens spirituel. Par exemple, nous disons chez nous en France que Monsieur Becquet, donc moi-même, ma mère patrie est la France. Mais ce n'est pas la France qui m'a accouché. C'est simplement un engendrement, une manière de parler enfantée aussi. Par exemple, on dit que la haine engendre la guerre. Donc ce sont des mots que nous devons comprendre. Il y a des synonymes. Et je pense que les musulmans ne doivent comprendre que lorsque nous utilisons le mot « engendrer », nous l'utilisons dans un mot, dans un synonyme, dans une comparaison. Voilà.
Il y a encore un autre point de divergence, un autre point qui est suffisamment compliqué pour les amis musulmans, qui semble être difficile à aborder avec eux. Quand on pense, par exemple, à cette situation de la Trinité, comment aborder donc les amis musulmans en ce qui concerne cette question de la Trinité en rapport avec les fils de Dieu? Voilà. Ça doit être un peu difficile là aussi.
Oui, très difficile. Mais il faut savoir l'enseignement du Coran vis-à-vis de l'unicité de Dieu. Dit, il est Allah, sourate 112 verset 1. Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal. Allah engendré. Mais ceux qui disent cela, ce sont certainement des menteurs. Ça, c'est ce que on voit sur l'engendrement. Maintenant, au niveau de la question sur la Trinité, forcément, le chrétien, lorsqu'il va aller sur le terrain, il ne va pas aller dire aux croyants, voilà, nous sommes trinitaires. Déjà, nous ne pouvons pas leur enseigner que Jésus est le Fils de Dieu comme ça, alors dans la rue, sans connaissance. Nous devons simplement leur dire, voilà, nous sommes des chrétiens qui croyons en un seul Dieu. Nous croyons au Père et nous croyons en Jésus. Nous croyons que le Père et Jésus forment Dieu. Et une réflexion qui m'est venue maintenant, par exemple, on peut dire que pour former un couple, il faut un homme et
une femme.
Mmh. Et pour former Dieu, il faut le Père et le Fils. Donc la Trinité consiste en ce que, pour nous chrétiens, dans le Proverbe chapitre 8, verset 22, Dieu nous dit que dans les temps éternels, Dieu a enfanté sa parole éternelle et qu'elle est devenue un fils. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que Dieu nous envoie quelqu'un qu'il a aimé, quelqu'un qu'il a chéri, quelqu'un qui existe dans une forme. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus existait en forme de Dieu. Ensuite, il fallait que Dieu nous démontre tout son amour en nous envoyant son fils. Alors les musulmans ont du mal à comprendre cela, parce que c'est vrai que dans le Coran, on ne parle pas de fils. Mais sachez que en imaginant un peu, dans votre Coran, il est écrit que Abraham a donné son fils en sacrifice. Il a fait un acte d'obéissance, mais aussi un acte d'amour, parce que Dieu, en retour, lui a donné aussi l'agneau. Il a échangé, hein, il a donné l'agneau. Et dans la parole de Dieu, nous disons aussi que Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Il fallait que Dieu nous donne son Fils. Il fallait que Dieu envoie son Fils pour que nos péchés soient pardonnés. Donc, il est très difficile de parler de Trinité, mais nous pouvons parler de l'amour de Dieu en nous disant que Dieu ne pouvait pas prouver son amour sans nous envoyer son Fils unique, celui qui est mort à la croix. Et sur ces questions, nous allons revenir un peu par la suite, n'est-ce pas ?
Oui, justement, peut-être que... Il faut l'aborder, parce que quand on feuillette un peu votre livre qui est apparu en France, Notre défi face aux musulmans, vous abordez un thème concernant la Trinité coranique. Est-ce que ça a quelque chose de similaire avec... ça apporte un rapprochement entre la Trinité comme le chrétien peut la comprendre ?
Oui, exactement la même chose. Exactement la même chose. Premièrement, en parlant de Trinité, le Coran ne dénonce pas la Trinité que nous confessons dans nos assemblées, non. Le Coran dénonce une mauvaise Trinité, comme un peu le mot engendré. Les musulmans s'imaginent que nous enseignons dans nos églises que Dieu aurait couché avec Marie. Non, non. Dieu dit et la chose existe. Marie est tombée enceinte par la puissance de Dieu. Dieu dit et la chose existe. Dieu dit à sa parole, voilà, tu vas dans le ventre de Marie, et la parole est venue dans le ventre de Marie. Le Coran est bien descendu en forme écrite, alors qu'il existe, sublime et radieux, à la droite d'Allah. C'est écrit dans le Coran. Et si Dieu a la puissance d'envoyer sa parole en la mettant par écrit, Dieu a aussi cette puissance d'envoyer sa parole pour qu'elle s'incarne et devenir un fils. Donc, la mauvaise trinité dans le Coran, c'est celle-ci. Sourate 4, 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez. Ne dites pas trois. Le Père, et nous allons voir le Fils. Et en fait, le Coran, lui, sa trinité, c'est Allah, Jésus et Marie. Oui, et nous continuons. Ce sera meilleur pour vous, car Allah serait trop glorieux pour avoir un enfant. Ce sont certes des mécréants qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Donc, Allah est le troisième. Donc, qui sont les deux autres ? Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Qui est donc le deuxième et le troisième ? Sourate 516, rappelle-leur le moment où Allah dira « Oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Donc la divinité dans le Coran, la trinité dans le Coran, ce n'est pas ce que nous enseignons. Nous n'avons jamais enseigné que Marie faisait partie de la trinité. Je ne sais pas où me remettre à trouver ces sources, mais nous savons en tout cas que ce ne sont pas nos sources. Ce ne sont pas les sources de la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos sources. Et pour expliquer donc à cette question... Si vous les musulmans ou si les chrétiens n'ont pas compris ce qu'est la Trinité, il faut savoir que le Coran nous parle aussi d'une Trinité, une Trinité coranique. Mais je mets en garde de bien ouvrir votre Coran et de faire la lecture à la suite de ce que je vais vous dire. Le Coran parle d'un Dieu qui s'appelle Allah. Ce Dieu possède une parole éternelle et incréée, le Coran. Parce que l'Ibn Adam Ibn a dit « Nul ne peut dire que la sagesse de Dieu a été créée. Nul ne peut dire que le savoir d'Allah, qu'est le Coran, a été créé. » Donc, dans le Coran, nous avons Allah et nous avons le Coran qui est incréé. Ça, c'est une chose qui est certaine. Aucun musulman ne peut dire que la parole est incréée. Et comme nous disons dans la Trinité chrétienne, le Père n'est pas le Fils. Et le Fils n'est pas le Père. Et dans la Trinité coranique, Allah n'est pas le Coran. Et le Coran n'est pas d'Allah. Mais le Coran émane de Dieu. il émane de Dieu. Quand vous prenez un parfum, que vous ouvrez son contenu, vous, il y a quelque chose qui émane de ce parfum, n'est-ce pas? Voilà. Ou alors, aujourd'hui, il fait chaud, moi, je suis tout en sueur. La sueur émane de moi. Et ce Jésus émane de Dieu, et ce Fils de Dieu que nous prêchons émane de Dieu. Hein? Et donc, dans le Coran, nous voyons aussi que le Coran parle de Al-Hoi Kudusi, c'est-à-dire l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Et parfois, nous voyons que dans le Coran, dans la sourate 754, que Dieu s'exprime au singulier. Il dira, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours. Puis il s'est établi sur son trône. C'est Allah qui a créé. Le verbe est au singulier. Maintenant, si nous avons nous avons ici un autre texte dans sourate 50-38. En effet, nous avons créé. Ici, le verbe est au pluriel. Nous avons créé les cieux et la terre et ceux qui existent entre eux en six jours sans éprouver la moindre lassitude. Sourate 57-25. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Si vous voyez, à chaque fois, c'est le pluriel. À chaque fois, c'est le pluriel. Le Coran originel. Le Coran enseigne que Dieu au ciel possède une parole à créer à sa droite. Tout comme la parole de Dieu nous enseigne aussi que la parole était avec Dieu et la parole était auprès de Dieu. Dans la sourate 43, versets 2 à 4, il est écrit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le livre explicite, nous avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, ce livre. » Dans l'écriture mère, l'original du ciel, sublime et rempli de sagesse, il est un esprit de Dieu. Donc le Coran est un esprit. Le Coran est originel, sublime et glorieux, elle est auprès de Dieu. Chers auditeurs, si tu entends cela, tu vérifies dans le Coran et tu verras que dans la sourate 43, versets 2, 4 à 5, on nous parle d'un Coran originel, un Coran qui est éternel, un Coran qui n'a pas été créé, un Coran qui est glorieux, un Coran qui n'est pas Allah lui-même, mais qui est éternel. Et nous savons que lorsque nous parlons d'éternité, seul Dieu est éternel. Et si le Coran est éternel, c'est qu'il est Dieu aussi. Comme nous le disons aussi pour la Bible, nous le disons aussi. Donc, nous savons aussi que le Coran parle de Al-Hoi Kudusi. Et Al-Hoi Kudusi, c'est dans la sourate 38, verset 72. « Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui et prosternez. » Ici, le Coran nous apprend que Dieu va insuffler de son esprit dans Marie. Et quand Allah dira, Sourate 510. Quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. » Le Coran prêche même bientôt aussi bien que nous sur le Saint-Esprit.
Tout à fait, hein.
Ah oui, oui. Le Coran nous dit que grâce au Saint-Esprit, Dieu a insufflé un souffle de vie et ce souffle de vie est devenu Jésus. Le Coran nous apprend que Jésus fortifie du Saint-Esprit et nous insufflâmes dans la sourate 66-12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur. Donc nous voyons que le Saint-Esprit, la parole, le Coran et Allah font trois. Et ensuite, les musulmans vont nous dire, non, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. C'est faux. La parole de Dieu, la parole des musulmans, et ainsi que la Bible, nous enseigne sur le Saint-Esprit. Et par exemple, le Coran, dans 74, dit, les anges, ainsi que l'Esprit, montent vers lui. Donc, on voit qu'ils sont distincts.
Tout à fait.
Les anges et l'Esprit sont distincts. Le Coran et Allah sont distincts. Donc nous avons, pour récapituler, nous avons Allah qui est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est éternel.
Tout à fait.
Ensuite nous avons la parole à créer. Si la parole est à créer et qu'elle est éternelle, c'est une partie de Dieu. Et ensuite nous avons le Saint-Esprit qui est distinct des anges. Donc les musulmans qui disent voilà, les chrétiens sont des idolâtres parce qu'ils adorent la Trinité. Les musulmans devraient relire un peu le Coran dans les textes que nous avons lus pour se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas encore découvert. Et voilà, sur ce chapitre.
Voilà, il y a encore un autre élément qui trouble certains de nos amis. Mais est-ce que le Coran parle de la naissance, de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus? Et dans quels termes?
Donc, le Coran nous parle de la mort, de la naissance, surtout de Jésus-Christ, puisque cette question a une relation avec Jésus. Donc, Il y a des contradictions, il y a une contradiction, mais nous allons la voir en avant. Je vais essayer de tenter de prouver que notre Seigneur Jésus-Christ, il est né, il est mort, il est ressuscité et il a été élevé à la droite de Dieu. C'est écrit dans le Coran tout ça. Et beaucoup de musulmans ne le savent pas. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans, même en lisant cela, ne peuvent pas recevoir la vérité. J'ai connu une femme qui s'appelait Esther Gulchen, une ancienne musulmane, descendante du prophète Mahomet, une pakistanaise. Elle est très connue dans le monde. Et elle était très malade. Et un jour, elle est tombée malade. Et elle était restée handicapée. Jésus est venu la voir dans une vision. Et il lui a dit, ma fille, tu vas être guérie, mais avant, tu dois me connaître. Tu vas lire dans la sourate Maryam. Il est parlé de moi. Alors qu'elle avait lu le Coran pendant des années et qu'elle n'avait jamais compris, là le Saint-Esprit est venu et elle a compris le Coran. Comme moi je l'ai compris autrefois. Parce que moi, autrefois, j'ai aussi appris le Coran. Et croyez-moi que je connais bien le Coran pour savoir qu'il n'enseigne pas ce que tu crois enseigner. Si tu reçois Dieu dans ta vie, si tu pries et que tu te mets devant ton Coran, Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Et en faisant ces lectures, vraiment que le Seigneur t'éclaire. Sourate 19:15. Ça, c'est le Coran, n'est-ce pas ? Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, le jour où il sera ressuscité vivant.
Ça, c'est le Coran qui le dit.
Ah oui, ça, c'est le Coran. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Dans la sourate 355, la famille d'Imram, verset 55. La sourate 19, c'est la sourate Marie. La sourate famille d'Imram. Rappelle-toi quand Allah dit « Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. » Ça veut dire « je vais te faire mourir ». Dans le mot arabe, c'est « stawa », c'est « faire mourir ».« T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur ce quoi vous vous opposiez. » Donc nous voyons que dans la sourate 355, c'est Dieu lui-même qui dit à Jésus, je vais te mettre fin à ta vie. Tu vas mourir. Ensuite, je vais te lever. Mais nous voyons que là, il manque ressuscité. Mais nous retrouvons le verbe ressusciter au verset 15 de la sourate 19, où il est marqué « Le jour où je vais naître, le jour où je vais mourir, le jour où je vais ressusciter vivant. » Et Dieu complète. Il dit qu'il va le faire mourir et ensuite l'élever. Nous avons la doctrine chrétienne. Tout à l'heure, pendant que je faisais la conférence, il y a un frère comme ça qui disait « Mais le Coran, on va se convertir avec. » On va se convertir en lisant le Coran. J'ai dit oui, une femme s'est convertie comme ça. Elle a lu le Coran, le Saint-Esprit est venu, et cette femme a été complètement guérie. Moi-même, j'étais persuadé en lisant le Coran, les musulmans croyaient que j'allais me convertir à l'islam. Ah, ils me montraient comment on faisait la prière. Ils m'ont appris l'arabe pendant 5 ans, et fait ci, et comme ça. Ils me montraient, ils étaient bons et généreux. J'ai eu de très bons contacts, mais je ne me suis pas converti à l'islam parce qu'en lisant le Coran, là. Et je me suis dit, mais comment ? C'est pareil que la Bible, ça, presque. Parce que je n'avais pas encore toutes les informations, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Et c'est après que j'ai vu qu'il y avait quand même des différences. Mais au début, j'ai dit, mais le Coran nous dit que Jésus est né, mort, ressuscité. Seulement, voilà, il y a un problème. Et nous allons l'aborder. C'est dans la sourate 457. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Non, ils ne l'ont point tué réellement, ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Il ne faut qu'on suive des conjonctures. Non, ils ne l'ont point certainement tué. Alors, deux versets nous disent que Jésus va naître, mourir et ressusciter et se lever. Et voilà qu'il y a un verset qui vient, qui est sûrement descendu du ciel quand Mohammed a compris que les chrétiens pouvaient être touchés, même les musulmans, pour se tourner vers Jésus. En fait, ce verset, c'est cette ligne qui nous dit, 157, « Ce ne fut qu'un faux semblant, ils ne l'ont point tué réellement. » Alors, j'étais très ennuyé pendant des années, jusqu'au jour où j'ai découvert comment répondre. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la réponse. On peut expliquer également cette apparente contradiction aux musulmans par ce texte de la Bible. Jésus a dit, personne ne me l'ôte, la vie. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, en fait, le verset ne dit pas que Jésus n'est pas mort à la croix. Le verset nous dit simplement que la divinité qui était en Christ n'est pas morte. Jésus ne pouvait pas mourir dans sa divinité. La Bible nous dit que lorsque Jésus se tourne vers le brigand de droite, il lui dit « Avec moi, tu seras dans le paradis ». Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il allait mourir, allait se retrouver dans le paradis avec le brigand. Mais en même temps, la parole de Dieu nous dit aussi qu'en son esprit, il alla prêcher aux esprits en prison en enfer.
Oui.
Voilà. Donc il n'est pas mort. Ils ne l'ont pas tué réellement. C'est ce que le Coran dit. Ils ne l'ont pas tué réellement. Et d'abord, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, c'est notre péché. Et ils ne l'ont pas tué réellement parce que les gens pensaient voir un cadavre. Mais ce cadavre qui était pendu n'était que la chair. Mais Christ est ressuscité. Vous le dites vous-même, les musulmans le disent eux-mêmes. Même. Je te mettrai à mort et je t'élèverai le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Ça veut dire que Jésus est ressuscité. Donc il n'est pas resté mort, ce n'était qu'un faux semblant. Jésus n'est pas resté dans la tombe, ce n'était qu'un faux semblant. Ce n'était que quelque chose qui ont trompé peut-être les ennemis de Jésus, à tel point que même les ennemis de Jésus, lorsqu'ils ont vu que Jésus n'était plus dans la tombe, ils ont été payés des soldats pour leur dire qu'on avait volé le corps. Ce n'était qu'un faux semblant parce que notre Jésus, notre Dieu est ressuscité. Personne ne m'ôte la vie, Jésus a donné sa vie de lui-même. Donc, vraiment, que le musulman lise ces textes que nous avons lus pour qu'il comprenne que ces versets ne sont pas même pas contradictoires, mais que, en fait, si on les aligne un par un et qu'on demande à Dieu de nous expliquer, il va vous expliquer la réalité de ces passages.
Ben, avec tout ça, quand on écoute tout ce que vous dites, pasteur, on comprend un peu pourquoi est-ce que les musulmans disent que nous avons falsifié la Bible. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, beaucoup de musulmans disent que nous avons falsifié la Bible. Et ils se basent sur plusieurs passages. Et ils vont aussi essayer de dénicher les contradictions qu'il y a dans la Bible. Et un jour, on a présenté environ une centaine. Et selon Ahmed Hidat, il y a 2000 contradictions apparentes dans la Bible. 2000. Qui sont dans la parole de Dieu.
Oui.
Alors, que faire face à toutes ces accusations contre la parole de Dieu? En ce qui concerne l'accusation selon les Écritures serait falsifiée, souvent les musulmans nous citent Jérémie chapitre 8, verset 8. Et il dit, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous, c'est bien en vain que s'est mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Donc Jérémie accuse les scribes de falsifier les Écritures. Mais Jérémie ne nous dit pas que ce sont les Écritures saintes. Beaucoup à l'époque écrivaient des livres qu'on appelle apocryphes. L'apôtre Paul lui-même, il dit, faites attention, ne croyez pas que le jour du Seigneur est là, car vous avez reçu quelques lettres qui ne venaient pas de moi. Donc à l'époque même de Paul, Paul accusait les gens, il dit, nous ne falsifions pas les Écritures comme le font certains. Donc il y avait déjà des falsificateurs, mais nulle part dans la Bible nous avons des falsifications. Simplement les musulmans vont rétorquer, vont nous citer des falsifications, par exemple dans Goliath de Gad. On va aller brièvement, 1 Samuel 17, verset 4, la Bible nous dit que Goliath, s'appelait Goliath de Gath et nous dit que David va le tuer. David va tuer Goliath de Gath. Il va lui couper la tête. La Bible nous dit bien que c'est David qui va trancher la tête à Goliath après lui avoir enfoncé une pierre dans la tête. Mais si on va dans 2 Samuel 21-19, donc ça ce sont les musulmans qui nous présentent les textes. La Bible nous dit, Elshalam, fils de Jaquet, tua Goliath de Gath. Il y a un problème, quoi. Qui avait une lance et le même nom et la même lance. Donc, ça pose un problème pour les musulmans. Ils nous disent, voilà, la parole de Dieu est falsifiée. Donc, je peux même poser une question, mon frère. Est-ce que tu connais le problème, là?
Hein? C'est une révélation.
Ah, c'est une révélation, voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est une contradiction apparente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Et les musulmans, lorsqu'ils lisent la Bible, des gens comme Ahmed Hidat donnent ces deux textes pour semer le doute dans le cœur des chrétiens. Et lorsque les chrétiens tombent sur, une fois c'est David, et une fois sur 12, c'est pas la même époque. Hein. David ne peut pas tuer Goliath de Gad et un autre tuer, quoi. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, oui.
Donc, eux, ils te disent, voilà, la Bible n'est pas falsifiée. Seulement, il y a une troisième lecture à faire, c'est dans 1 Chronique 25. Ça, ils n'ont pas fait de recherche. Hein. Moi, j'ai fait des recherches. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elshalam, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath.
Ah, alors là, ça donne une autre lumière, là.
Ah, voilà. Donc, vous avez compris, en fait, que il n'y a pas de contradiction. Simplement, Echanam, tu as le frère de...
De Goliath, c'est pas Goliath, lui.
Oui. Alors, les musulmans vont rétorquer, vont nous sortir d'autres contradictions. Par exemple, sur le mot « environ ». La Bible nous dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère ». Le musulman va te dire, mais c'est quoi cette aspiration de environ,
environ.
Mais Jésus avait peut-être 32 ans et 11 mois, n'est-ce pas? Donc cet environ, c'était pour abréger, quoi.
Tout à fait.
Bon. Mais les musulmans qui sont si pointilleux devraient savoir que la Bible parle de beaucoup. Il était environ la 6e heure. Hein, on connaît, hein? Il est environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Environ 3 heures plus tard. Quand il ouvrit le 7e jour, il eut un silence d'environ une demi-heure. Environ une demi-heure. Donc, on pourrait dire, mais il y a plein de contradictions. Alors, les musulmans qui s'attaquent à la Bible devraient savoir que dans la sourate 16, verset 77, il est écrit « C'est à Allah qu'appartient la connaissable des cieux et de la terre, et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil ou plus bref encore. » Et ici, sourate 53:8. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux portées d'arc ou encore plus près. Faudrait savoir. Nous aussi, on peut critiquer.
Oui, tout à fait.
Donc, je ne pense pas qu'il soit utile d'attaquer le Coran sur ses contradictions, parce qu'il pourrait très bien relever les notes. Mais qu'il ne relève pas nos contradictions sans avoir étudié la Bible. Parce que moi, j'ai étudié le Coran. Et je peux dire que, en fait, là, ce n'est pas des contradictions. Ce ne sont pas des contradictions, mais simplement une manière de parler pour abréger. Hein? Mais lorsque nous lisons, les musulmans lisent la Bible, souvent, ils y trouvent des contradictions, mais il y a des réponses un peu tout partout. Seulement, bon, il faut avoir un peu la connaissance, quoi.
Mais ça voudrait dire que pour quelqu'un qui a bien compris, qui a bien étudié le Coran, comme vous avez pris le temps de le faire, il peut bien ramener le musulman à comprendre des vérités bibliques à partir de son Coran.
Oui. D'abord, je souligne premièrement que en tant que chrétien, lorsque vous allez voir les musulmans, allez avec votre Bible, mais sachez et connaissez la foi de votre musulman, mais aussi ce qu'enseigne le Coran. Donc, bien sûr, tout le monde ne peut pas acheter le Coran. Mais j'invite aussi tous les chrétiens qui ont acheté le Coran ne pas faire le Coran le livre de chevet. Hein? Lisez-le. Allez, demandez des conférences et des séminaires. Et je propose à chaque chrétien de lire mon site, dont je rappelle l'adresse qui est très importante, hein, www.biblecoran.org. Là, vous avez sur le site toutes ces études. Vous avez aussi les conférences qui ont été faites, qui sont enregistrées dessus. Et vous pouvez vraiment vous fortifier et aussi vous équiper. Vous outiller pour aller voir les musulmans.
Voilà le temps qui nous a été imparti, pasteur, est allé très vite. Mais pour conclure par rapport à toute cette communication, quel est le conseil que vous donneriez aux chrétiens qui aimeraient bien se rapprocher de nos amis musulmans pour les aider à comprendre la vérité, à recevoir la lumière?
Voilà. Pour conclure brièvement, j'aimerais simplement parler d'un homme qui s'appelle Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 6e heure, il vit clairement dans une vision un ange qui entra chez lui et dit « Corneille ». Et Dieu lui dit « Voilà, tu as été béni. Nous voulons que tu vas chercher maintenant quelqu'un qui va t'annoncer la vérité. » Vraiment que nous soyons tous des Corneilles, ou alors tous des personnes qui allons voir nos Corneilles, nos Mohamed, nos Hamed, et toutes ces gens-là qui ont aussi la piété comme cet homme. Cet homme n'avait pas reçu la vérité, mais il aimait Dieu. Et il faisait constamment des prières et faisait beaucoup d'aumônes. Vraiment, après cet homme-là, quand il est devenu un homme de Dieu, là, il a amené la vérité dans toute sa famille. Toute sa famille a été sauvée. Donc vraiment, moi j'ai la vision que beaucoup de musulmans peuvent venir à Jésus si nous les aimons. Si nous prions pour eux, si nous formons dans nos assemblées des groupes d'intercession, si nous formons des ouvriers aussi. Et je suis là pour ça, pour former des ouvriers.
Voilà, vous l'avez compris de vous-même. Nous disons tout simplement merci au pasteur Christian de ce qu'il a pris de son temps de son énergie. Vous pouvez pas le voir, il est tout transpirant avec la température.
Sur la conférence aussi. Très fatigué.
Merci d'avoir été disponible pour éclairer nos auditeurs par rapport à ce sujet qui est important, parce que nous croyons que les musulmans sont véritablement nos amis, ils sont nos frères d'une manière ou d'une autre, qu'il est important qu'il y ait un rapprochement, une bonne température entre eux et nous. Merci pour cette lumière. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre ministère.
Et vous aussi.
Voilà. Allez, nous disons au revoir et à la prochaine fois.